Europe Matin, Omblin Roche, Julien Pierce.
Bonjour à toutes, bonjour à tous.
Et bienvenue sur Europe 1. On est heureux de commencer cette nouvelle journée avec vous. Bon réveil. Les amis, on vous sert des infos, du café et un chouï de Nirvana.
La voix de Nirvana, la voix de Kurt Cobain qui s'est tue il y a 28 ans, le 5 avril 1994. Il en avait 27. Venez comme vous êtes, chanter Kurt Cobain. Merci de choisir Europe 1 et le petit matin. Nous sommes le 5 avril 2022. Dans l'actualité, Julien.
Les découvertes macabres qui se poursuivent dans les faubourgs de Kiev, où l'on retrouvera dans un instant notre envoyé spécial. Et puis, la mort de Jérémy Cohen, du nom de ce jeune handicapé juif, agressé puis écrasé par un tramway à Bobigny. L'affaire prend une tournure politique à 5 jours du premier tour de la présidentielle.
Un scrutin d'où pourrait bien sortir vainqueur l'abstention.
Oui, c'est la grande crainte de tous les observateurs, tant cette campagne suscite peu d'intérêt. Vous l'avez peut-être remarqué autour de vous, on ne parle pas de cette présidentielle en privé. C'est quasiment un non-événement. Résultat, on pourrait bien battre dimanche un nouveau record d'abstention.
Jusqu'à un tiers des électeurs pourraient bouder les urnes selon les derniers sondages, ce qui serait inédit.
La présidentielle ne passionne plus. Alors bien sûr, il y a le contre-coup de la crise sanitaire et la guerre en Ukraine qui écrase tout. Mais est-ce que le mal ne serait-il pas plus profond, le révélateur d'une société de plus en plus polarisée? On va poser toutes ces questions à un politologue rare dans les médias.
Gilles Finkelstein, le directeur de la Fondation Jean Jaurès, il sera notre invité à 6h10.
C'est la nouveauté du jour, des consultations chez un psychologue pris en charge par l'assurance maladie.
Un nouveau dispositif voulu par le gouvernement qui souhaite améliorer l'accès de la population aux psychologues. Il est toutefois soumis à certaines conditions, par exemple, seules 8 séances par an seront remboursées par la Sécurité sociale et la Mutuelle et le patient devra être adressé par son médecin généraliste.
Des conditions parmi d'autres qui font grincer les dents d'un certain nombre de professionnels.
Nous verrons pourquoi à 6h moins le quart avec Benoît Schneider. Il est président honoraire de la Fédération française des psychologues et de psychologie.
Et puis votre partition.
2 mois après la sortie de son premier album, elle est née aux yeux du monde lors du concert donné à Wembley pour la libération de Nelson Mandela. C'était en juin 1988. Elle avait remplacé au pied levé sur scène Stevie Wonder, Tracy Chapman, ses débuts à 6h20.
La météo, bonjour Anissa Haddadi.
Bonjour Julien, bonjour Omblin.
Bonjour.
Comment s'annonce ce mardi?
Ah bah alors, c'est un schéma totalement classique. Nous avons une France coupée en deux. Vous prenez une petite carte, vous
toujours
tirez un trait.
Toujours au-dessus de la Loire.
Alors là, c'est un petit peu plus bas. Vous tirez un trait entre Bordeaux et Chambéry. Vous voyez, tout ce qui est au-dessus de cette ligne, bah c'est gris, pluie, averse, vent, la totale. Et tout ce qui est en dessous de cette ligne, c'est du grand et beau soleil, ciel totalement dégagé. Alors il y a quand même un avantage à tout cela, c'est que les régions qui vont se retrouver sous les nuages ont des températures particulièrement douces. Aucune gelée à prévoir ce matin sur la moitié nord du pays. Il fait même très doux, on a 10 degrés à Dunkerque, 9 à Quimper, 8 à Paris, 7 degrés au Mans, 5 à Strasbourg, 3 à Belfort. En revanche, pour les régions qui se situent sur la moitié sud, on a un ciel très étoilé, très dégagé et du coup les gelées sont là, moins 5 à Aurillac, moins 4 à Mont-de-Marsan, moins 2 à Saint-Étienne et 0 pour Toulouse.
Merci beaucoup Anissa Haddadi, Cap au Sud donc. Soyez tous les bienvenus, il est 5h. Très bon réveil à tous.
Ils se sont préparés à nous fusiller. L'un d'eux a tiré mais la balle n'a pas fonctionné. Elle n'est pas partie. Le chef du groupe m'a donné la balle en disant « c'est ta vie ».
Il n'y a pas qu'à Boutcha que l'armée russe a commis des atrocités. À Mykolaïvka aussi, des civils ont été exécutés ou ont failli l'être, comme le raconte cet homme. L'un des témoignages édifiants recueillis par notre envoyé spécial sur place. D'un fait divers, un fait politique, l'affaire Jérémy Cohen, mort en février, percuté par un tramway en tentant de fuir ses agresseurs à Bobigny. Ce n'est qu'hier que la vidéo est devenue virale sur les réseaux sociaux. Les candidats à la présidentielle s'emparent du dossier. Et puis, le travail, les confinements, notre santé mentale mise à rude épreuve ces 2 dernières années. Le gouvernement lance aujourd'hui le dispositif Mon Psy, jusqu'à 8 séances annuelles prises en charge à 100%. Il fait déjà polémique, nous entendrons pourquoi dans un instant.
Europe Matin, Omblin Roche.
Roche et Julien Pierce.
Et le premier journal de cette matinale vous est présenté par Alban Le Prince. Bonjour Alban.
Bonjour à tous. L'indignation internationale après la découverte de l'horreur de Boutcha en Ukraine. Mais Boutcha, devenu symbole des villes charniers, n'est pas la seule. À une quinzaine de kilomètres de là, un autre exemple de cette barbarie. Mykoulichi, petite bourgade de 2500 âmes avant-guerre. Occupée pendant des semaines par les troupes russes, elles se sont acharnées sur la population avant leur départ jeudi dernier. Document aussi terrifiant qu'exceptionnel que nous vous proposons ce matin sur Europe 1 avec notre envoyé spécial Nicolas Tonev.
Quand la vie a tenu à moins d'un fil, la prudence est de mise. Celle de Nicolas a tenu à un défaut de fabrication.
Les Russes nous ont placés avec mon voisin près d'une voiture en feu. Ils se sont préparés à nous fusiller. L'un d'eux a tiré, mais la balle n'a pas fonctionné. Elle n'est pas partie. Le chef du groupe m'a donné la balle en disant « c'est ta vie ».
C'était un avant-goût du 27 mars de la rue Starosielska, la rue du vieux village. Charmante avec ses palissades et maisons de bois, en horreur avec ses façades brûlées et ses assassinats racontés par Andrei.
5 personnes exécutées, ils sont arrivés sur les blindés par l'extrémité de la rue et ils ont commencé à tirer. C'était le 27 mars. On a entendu les tirs continus et après leur départ, on est allé voir pourquoi ils tiraient. Et on a vu des corps et encore des corps. 5 personnes tuées d'une balle dans la tête au pistolet.
De l'autre côté de la rue, le miraculé du 27 mars, Petia, le frère d'Andrei.
Quand ils sont arrivés, ils ont pris les téléphones portables et m'ont dit de m'asseoir dans la cour. Ils ont tiré près de mes jambes 2 fois en disant « Tu ne vas pas vivre. Vas-y, bois de l'eau une dernière fois. » Dans la maison, ils discutaient de notre destin en se demandant s'ils nous tuaient ici ou ailleurs. Puis ils se sont regroupés et sont partis.
Inconscience du mort-vivant, Petia et le village défient les Russes en offrant des tombes aux fusillés de la rue.
Vous voyez 4 tombes fraîches. La 5e victime, l'institutrice, est enterrée dans la cour de sa maison. Les Russes roulaient avec leurs blindés devant nous. On se cachait, mais on a creusé ces tombes. On ne leur a pas demandé d'autorisation. Personne n'a rien demandé.
Les Russes quittent Mykoulichi en catastrophe dans la nuit du 30 au 31 mars. La rue Starosielska pense chaque jour à ses morts. Au moins 2 cadavres sans sépulture, victimes de tirs, hantent encore le village. À Mykoulichi, Nicolas Tonev, Europe 1.
Et face à ces massacres, la France a annoncé hier l'expulsion de 35 diplomates russes, 40 pour l'Allemagne. Un nouveau volet de sanctions pourrait d'ailleurs être annoncé aujourd'hui par les Occidentaux à l'issue d'un conseil de sécurité de l'ONU.
Des sanctions plus dures que réclame notamment la Pologne.
Oui, avec aussi la création d'un tribunal international chargé d'enquêter sur la mort des civils en Ukraine, puisque depuis quelques jours, les accusations de crimes de guerre pleuvent contre la Russie. La procureure générale d'Ukraine en dénombre plus de 4000. Assez, dit le Premier ministre polonais qui s'est directement adressé à Emmanuel Macron hier en tant que chef de l'Europe.
Monsieur le Président Macron, combien de fois avez-vous négocié avec Poutine? Qu'avez-vous obtenu? Avez-vous arrêté une de ces actions qui ont eu lieu? Il ne faut ni négocier, ni discuter avec les criminels. Les criminels doivent être combattus. Personne n'a négocié avec Hitler. Négocierez-vous avec Hitler? J'appelle donc les dirigeants de l'Union européenne à agir de manière décisive pour briser la machine de guerre de Poutine.
Et pendant que les Occidentaux réfléchissent à de nouvelles sanctions, la machine de guerre de Poutine semble se réorganiser.
Oui, pour une attaque massive contre les troupes ukrainiennes dans la région de Lugansk, située à l'est de l'Ukraine, le gouverneur Sergueï Gaïdaï dit observer l'arrivée d'hommes ou encore de carburant dans cette zone.
5 heures passées de 5 minutes sur Europe 1. On revient en France où, à 5 jours du premier tour de la présidentielle, une affaire tragique devient politique.
Celle de Jérémy Cohen. En février, l'homme de 31 ans, handicapé, est agressé par une bande de jeunes à Bobigny. Dans sa fuite, il est heurté par un tramway et décédera quelques heures plus tard à l'hôpital. C'est hier, 1 mois et demi après ce drame, que la vidéo de son agression est devenue virale, suscitant l'émoi. Réaction en cascade également des candidats à la présidentielle, Victor Chabert.
Oui, Éric Zemmour a été le premier des candidats à réagir. Et pour cause, hier soir, aux 20h de TF1, il a déclaré avoir été contacté par le père de la victime, Gérald Cohen, pour parler de l'affaire.
Il a fallu que le père de ce jeune homme m'écrive pour me raconter cette terrible histoire et pour que je le porte dans les bas publics aujourd'hui.
Des faits confirmés par le père de Jérémy plus tard dans la soirée.
J'ai demandé effectivement à Éric Zemmour s'il pouvait nous aider
dans le cadre de l'enquête pour faire quelque chose et pour pas que l'enquête soit fermée ou étouffée. Et il a bien voulu faire et de ça, je l'en remercie.
Selon nos informations, Gérald Cohen a contacté le candidat par email dimanche. Ils ont échangé et décidé de médiatiser le dossier. Éric Zemmour a publié plusieurs tweets durant la journée d'hier et une tribune sur l'affaire dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles. Marine Le Pen a également réagi, tout comme Nicolas Dupont-Aignan. Il déplore le silence autour de cette affaire et s'interroge sur le caractère antisémite de l'agression. Valérie Pécresse, Fabien Roussel, Jean-Luc Mélenchon et Yannick Jadot demandent, eux, à ce que toute la lumière soit faite.
Merci Victor Chabert du service politique d'Europe 1. Et selon le Figaro, à la demande d'Emmanuel Macron, les parents de Jérémy Cohen ont été contactés hier soir. Toute la lumière sera faite sur cette affaire, leur a assuré l'Élysée.
En Corse, pas de retour au calme, pas de réunion.
Et oui, élus corse et gouvernement devaient se retrouver vendredi à Paris pour discuter d'une potentielle autonomie de l'île de Beauté. Mais après les nouvelles violences survenues avant-hier lors d'une manifestation pour Ivan Colonna, l'entourage du ministre de l'Intérieur estime que les conditions ne sont pas réunies pour dialoguer sereinement.
Les différents confinements, le Covid additionné aux problèmes du quotidien, la vie chère, bref, notre santé mentale a été mise à rude épreuve ces deux dernières années.
Si bien qu'Emmanuel Macron avait annoncé fin septembre le lancement d'un dispositif d'accompagnement psychologique baptisé Mon Psy. Il est mis en place à partir d'aujourd'hui jusqu'à 8 consultations annuelles, 100% remboursées chez environ 1000 psychologues libéraux partenaires et dès l'âge de 3 ans, référencés sur le site monpsy.santé.gouv.fr. Mais il fait déjà polémique. Alors que 12 millions de Français souffrent de troubles psychiques, le problème, Yasmine Akatou, c'est qu'ils ne sont pas tous concernés.
Oui, le dispositif Mon Psy s'adresse aux Français qui souffrent de troubles dépressifs ou anxieux, légers à modérés, précise le gouvernement. Les consultations pour burn-out ou idées suicidaires sont donc exclues. Une aberration selon Camille Mauric-Fédy, cofondatrice du collectif Manifeste Psy, qui rassemble plus de 7000 psychothérapeutes.
Les troubles légers à modérés, ça n'existe pas. Parfois, on consulte effectivement pour un peu d'anxiété ou un petit peu de déprime, comme le patient va l'appeler, et en fait, on se rend compte que ça cache d'autres choses derrière.
Pour être remboursé, les séances doivent être prescrites par un médecin généraliste. Une étape de plus à franchir pour les patients, regrette la psychologue.
Passer par un médecin généraliste dissuade, dans bon nombre de cas, les patients à aller consulter un psychologue. Le patient doit pouvoir avoir un accès libre et direct au psychologue de son choix, surtout à l'heure actuelle où on constate de grandes difficultés à pouvoir avoir un rendez-vous chez un médecin généraliste.
Le dispositif permet le remboursement de 8 séances par an, largement insuffisant pour établir un suivi, selon Camille Mauric-Fédy. Pour poursuivre la thérapie, les patients devront débourser de leur poche en moyenne 60 euros par séance.
Merci Yasmina Katou.
Et on approfondira ce sujet à 6h moins quart avec l'interview d'Omblin. C'était le journal d'Alban Le Prince. Merci beaucoup Alban.
Il est 5h09 et c'est l'heure des courses sur Europe 1, le Paris-Gagnon avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Omblin. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Saint-Cloud et mon Paris-Gagnon sera le 808 Welcome Moon, auteur d'une prometteuse course de rentrée à Saint-Cloud le 19 mars, échouant seulement d'une encolure, il devrait pouvoir, à la faveur de quelques progrès attendus par son entourage, renouer avec la victoire qu'il n'a plus connue depuis plus de 2 ans, d'autant plus qu'il évoluera cet après-midi sur un parcours sur lequel il n'a encore jamais déçu. Alors notez bien, pour Saint-Cloud, réunion 1, dans la 8e course, le numéro 8, Welcome Moon.
Welcome Moon, quel joli nom, merci beaucoup Thierry Léger. Vous revenez dans un quart d'heure, dans une demi-heure pour les pronostics du Quintet. À tout de suite.
Et Julien Pierce sur Europe 1.
À 5h10 précise, c'est le pressing, les 3 histoires de votre revue de presse. C'est pour vous les raconter avec nous. On accueille Martin Ange.
Bonjour Blin, bonjour Julien, bonjour,
bonjour
à tous.
Martin. On commence bonjour. Avec les unes de vos journaux qui, pour la plupart, reviennent sur l'Ukraine. Crime de guerre, Poutine au banc des accusés, titre Le Figaro, alors que les images de civils massacrés dans les banlieues de Kiev suscitent l'indignation des Occidentaux. Le chagrin et la colère de Valentina à la une du Parisien aujourd'hui en France. Valentina, c'est une grand-mère ukrainienne qui incarne à elle seule toute l'horreur des massacres de Boutcha. Sa belle-fille ainsi que ses 2 petits-fils de 4 et 10 ans ont été tués par les soldats russes. Et puis l'appel à de nouvelles sanctions, c'est ce qu'on peut lire en une des Échos. La France, la Pologne, on l'entendait dans le journal, les Pays-Baltes ainsi que les États-Unis appellent à un embargo plus rapide, notamment sur le gaz russe. Omblin, je me tourne vers vous. On commence avec vous. Quel article avez-vous sélectionné?
La petite mise à jour du Figaro sur la voiture du futur. Cette voiture qu'on fantasme, bardée de capteurs, de nouvelles technologies vouées à supprimer le conducteur. Elle ne sera finalement pas volante, mais de plus en plus autonome. Nous sommes tous destinés à n'être que des passagers, finalement, des spectateurs devant un monstre de performance, état des lieux des innovations qui vont modifier notre conduite, la rendre plus sûre sans doute, et faire des trajets un moment agréable qui ne seront plus synonymes pour certains d'entre nous de perte de temps. Imaginez par exemple le véhicule qui prend les commandes. Il existe un système en train d'être testé jusqu'à une vitesse de 60 km/h. L'ordinateur de bord va prendre votre place au volant. Voilà, vous pourrez fermer les yeux, vous pourrez bouquiner, préparer votre émission du petit matin par exemple, Julien. Si l'entrée dans un garage ou un parking vous angoisse, suivez mon regard, cette panique ne sera qu'un lointain souvenir quand votre voiture ira se garer toute seule et vous n'aurez même plus besoin de vous rendre à l'intérieur du parking, vous attendrez tranquillement dehors et au moment de la récupérer, c'est elle qui viendra vous chercher. J'aime beaucoup cette innovation. Les éclairages ne vont plus uniquement vous permettre de voir la route ou d'être vu. Il existe déjà des voitures qui affichent le logo de la marque au sol lorsque vous ouvrez une portière. Eh bien, l'éclairage à LED rend possible l'affichage des messages. Pourquoi ne pas avertir la voiture qui vous suit qu'un objet traîne sur la chaussée devant vous, qu'une voiture est en panne sur le bas-côté? Il sera même peut-être possible de demander gentiment au conducteur de derrière de ne pas coller trop le pare-choc. Trop près, monsieur. On n'oublie pas l'intérieur totalement repensé. Plus de boutons physiques que du digital. Mieux des commandes vocales.
Ça, c'est pas terrible. Ah plus oui de boutons, ça se fait sur les modèles les plus récents.
Voilà.
Pour bouger la température de la clim, par exemple, le tactile, c'est pas terrible.
Il y en aura de moins en moins, dommage. Certains équipementiers vont encore plus loin, Julien, en imaginant des publicités diffusées sur des écrans de bord. Puisque le covoiturage va entrer dans les mœurs, vos passagers paieront moins cher leur trajet grâce à la projection de réclames sur le tableau de bord. Plus de volants que des écrans. En situation de crise, alors.
Conduite manuelle.
Exécution impossible.
Conduite manuelle, vite!
Dysfonctionnement. Exécution impossible.
Urgence! Arrête! Freine! Freine, putain de caisse de merde!
Voilà, la voiture autonome de Demolition Man n'a pas convaincu Sylvester Stallone. Les innovations qui vont changer la voiture dans le Figaro, on les espère plus performantes.
Ouais, et moins grossières. Pas la même occasion.
La voiture, elle est très polie. C'est Sylvester Stallone qui est bon, limite.
Merci beaucoup, Ombline. Et le plaisir de conduite dans tout ça, hein?
Exactement, on n'en parle pas assez.
On n'en parle pas. Martin, à vous.
Oui, l'une des principales sanctions prises par les Occidentaux contre la Russie, vous le savez, c'est la saisie des avoirs des oligarques et autres proches du pouvoir. Pour vous donner une idée, depuis le début de la guerre en Ukraine, l'État français aurait saisi plus de 500 millions d'euros de biens immobiliers. Ces confiscations, tous les pays de l'Union européenne les ont ordonnées, mais elles coûtent parfois très cher, notamment en Italie, où une loi impose à l'État d'entretenir ces biens. Par exemple, le A, énorme yacht, un 3-mâts 142 mètres de long, 12 000 tonnes. Il appartenait à un oligarque, mais depuis le 12 mars dernier, il a été confisqué par la justice italienne et il reste amarré dans le port de Trieste. Un cas parmi d'autres, me direz-vous? Oui, sauf que le géant des mers est devenu un véritable gouffre financier pour l'État italien. C'est le journal La Repubblica qui alerte, repris par le Courrier International chez nous. Rien que pour les petites dépenses de manutention quotidienne, ce yacht coûte au moins 1 000 euros par jour, explique le journal. Et ça, c'est sans compter la place au port, l'eau, l'électricité, au moins 2 000 euros par jour de plus. Il y a aussi les frais d'équipage, c'est 11 personnes bloquées à quai. Selon le calcul du journal, on atteindrait près de 200 000 euros par mois. Et ça, ce n'est qu'un exemple. Rome a aussi mis la main sur des dizaines d'autres yachts, des villas, des voitures de luxe. Mis bout à bout, ça commence à faire une sacrée ardoise.
Mais Martin, c'est la loi qui impose à l'État de payer.
Oui, comme ces biens ont été gelés et non séquestrés, la loi oblige l'État à les entretenir en vue d'une possible restitution. Les propriétaires remboursant les frais une fois qu'ils récupèrent leurs biens, plutôt improbable à l'heure actuelle. Alors rassurez-vous, en France, le dispositif est différent. Les frais d'entretien restent à la charge des propriétaires. Mais ce n'est pas toujours plus simple, puisqu'en ce moment, beaucoup ne paient plus leurs charges. Bref, en Italie, pour éviter que ces sanctions coûtent trop cher, Rome envisagerait de louer ses biens à des particuliers pour des vacances, des fêtes ou des tournages. Si ça vous intéresse, Ombline, Julien, ça permettrait à l'État italien de faire quelques économies. Les biens confisqués aux oligarques russes coûtent cher à l'État italien. C'est à retrouver sur le site du Courrier International.
On se loue un petit yacht pour l'été, là?
Avec grand plaisir. Ils font des prix?
Bah,
il y a des ristournes?
Ouais, Fabrice.
Notre réalisateur, voilà. Merci.
On appelle les Italiens tout de suite. Merci beaucoup Martin. J'ai choisi pour vous un article du Point qui s'intéresse à l'avenir de Will Smith après son coup de sang à la cérémonie des Oscars. Cette gifle en mondovision assénée au maître de cérémonie Chris Rock, auteur d'une mauvaise blague au sujet de Jada Pinkett, l'épouse du prince de Bel-Air. Now this is a story all about how my life got flipped, turned upside down, and I'd like to take a minute, just sit right there, I'll tell you how I became the prince of a town called Bel-Air. Voilà, ça c'était juste pour vous ramener dans les années 90, au début de Will Smith, quand l'acteur n'était pas encore la machine à cash et à popcorn qu'il est devenu au cours des trois décennies suivantes. Une valeur sûre dont les films ont rapporté pas moins de 9 milliards de dollars de recettes cumulées. On pense notamment, pour les plus connus, à Independence Day ou encore à Men in Black. Des cartons au box-office qui aujourd'hui ne pèsent pas bien lourd face à cette gifle relayée et détournée. Vous l'avez tous vu des millions de fois sur les réseaux sociaux. À en croire le Hollywood Reporter, journal toujours bien informé côté tapis rouge, plusieurs projets de l'acteur sont désormais figés, les producteurs préférant attendre de voir comment le vent va tourner dans les prochains mois. En clair, si l'image de Will Smith auprès du grand public va survivre à ce fâcheux épisode. C'est le cas notamment pour la franchise Bad Boys, mauvais garçon en bon français, vous apprécierez l'ironie de la situation. Bad Boys, dont un quatrième opus était sur le point d'être tourné, l'acteur devait rempiler en flic de choc. Il avait même déjà reçu le script d'une quarantaine de pages, mais juste après l'incident des Oscars, Sony a dit « Wait and see, on attend avant d'aller plus loin ». Autre film dont l'avenir est en suspens, Fast and Loose, un thriller qui raconte l'histoire d'un parrain du crime atteint de perte de mémoire après une attaque et dont Will Smith est le héros. Le projet avait déjà pris un sérieux coup dans l'aile en perdant son réalisateur il y a quelques mois, parti tourner un autre long métrage, et Netflix était en recherche active d'un remplaçant avant de mettre le projet en veilleuse au lendemain des Oscars. On ignore encore si la plateforme compte poursuivre l'aventure avec une autre star dans les prochains mois. Enfin, Will Smith doit prochainement être à l'affiche du film Emancipation, produit par Apple TV+, une fresque historique qui raconte la fuite d'un esclave de Louisiane en pleine guerre de sécession. Le long métrage est actuellement en post-production et devrait sortir cette année, mais Apple n'a toujours pas fixé de date et se refuse à tout commentaire depuis l'affaire de la gifle. Le tout Hollywood a donc retourné sa veste aussi vite que la main de Will Smith est venue frapper le visage de Chris Rock. Rien de très étonnant dans une industrie qui adore faire et défaire, surtout ces dernières années avec l'essor salutaire du mouvement MeToo. On se souvient de la chute express d'Harvey Weinstein, l'un des grands Manitou de la production hollywoodienne, condamné pour viol et agression sexuelle, ou encore de Johnny Depp, dont la carrière a été sérieusement ébranlée par son divorce houleux avec l'actrice Amber Heard, qui l'accuse notamment de violence conjugale. Alors on n'en est pas encore là avec Will Smith, loin de là, d'autant qu'il y a une grande différence entre une gifle donnée à un homme et des violences sexuelles ou autres infligées à des femmes. Mais cette nuance de taille sera-t-elle suffisante aux yeux du tout Hollywood pour tourner la page? Rien n'est moins sûr. Le prince de Bel-Air a du souci à se faire. Cette gifle qui pourrait coûter cher à Will Smith, c'est à lire sur le site du Point.
On espère quand même qu'on va arriver à passer à autre chose bientôt. Faut pas oublier qu'il a quand même décroché un Oscar juste après.
Bon, après, s'il peut ne pas tourner Bad Boys.
Oui, oui, là, on peut discuter des choix après des œuvres, effectivement. Il y a peut-être pas de mal. Merci beaucoup, Julien. Merci, Martin. On se retrouve dans 40 minutes pour l'histoire. À tout à l'heure.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
Il est 5h19 sur Europe 1, les principaux titres. Alban Le Prince.
Après la découverte de la boucherie de Boutcha en Ukraine, l'heure est aux sanctions. La France annonce l'expulsion de 35 diplomates russes, une quarantaine pour l'Allemagne, alors que les Occidentaux comptent annoncer un nouveau volet de sanctions économiques contre Moscou. Boutcha, synonyme de tournant majeur dans ce conflit. Hein. Les accusations de crimes de guerre contre la Russie se poursuivent à l'international. La procureure générale d'Ukraine estime leur nombre à 4 Acquitté au bénéfice du doute, Mamadou Diallo, jugé pour le meurtre d'une postière en 2008 dans l'Ain, est ressorti libre cette nuit. Il a tout de même écopé de 2 ans de prison pour le vol d'une liasse de billets, peine couverte par sa détention provisoire.
C'est à présent sur Europe 1 la chronique de celles et ceux qui s'engagent. Les initiatives en France nous emmènent, Julien, ce matin dans le Loir-et-Cher.
Bonjour Vincent Fordrinier.
Bonjour Julien.
Merci beaucoup de nous accorder quelques minutes. Vous êtes le fondateur d'Eveia, une start-up qui a imaginé un engin pour lutter contre la sédentarité, un pédalier connecté que l'on met sous son bureau pendant que l'on travaille. Expliquez-nous.
Exactement. L'objectif premier, c'était de combattre ma sédentarité naissante, ce que j'ai découvert il y a de ça à peu près plus de 4 ans que être sédentaire, ça avait des effets néfastes sur ma santé. Et donc, je me suis dit, mais il faut que je fasse quelque chose. Il faut que j'agisse. Il faut que je trouve une solution pour que je puisse continuer à travailler au bureau, parce que je travaille assis, tout en bougeant et en ayant une activité physique derrière mon bureau.
Alors, il ressemble à quoi, cet engin ? Décrivez-le-nous.
L'esthétique est un peu proche d'un produit à la Apple. L'idée, c'est qu'on ait un beau produit, alors c'est mon goût, mais qui soit un design esthétique, qui soit pas clivant dans un usage médical, puisque c'est avant tout, à la base, un dispositif médical. Donc, on va dire que ça ressemble à une sorte de tour de PC un peu design, élégante, avec des couleurs dans la tendance du temps, des cuivres, des blancs, des argents, qui s'assortissent avec un téléphone portable.
Et il y a des pédales de chaque côté de cette tour de PC, comme vous dites.
Tout à fait. Il y a deux pédales, une de chaque côté. Il n'y a pas de sens, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de devant, derrière. Il y a un cale-talon pour caler le pied, ou les talons en l'occurrence. Mais il n'y a pas besoin de chercher, il y a un devant, un derrière, un dessus, un dessous. Il n'y a pas besoin de se pencher sous le bureau à l'usage pour savoir où est-ce qu'on en est.
Alors justement, je précise tout de suite à nos auditeurs que j'ai pu tester votre produit pendant quelques jours et effectivement, on n'entend rien. On en vient même à oublier que l'on pédale pendant qu'on travaille. C'est assez bluffant.
C'est l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver sur les premiers niveaux de difficulté, la possibilité d'avoir un travail cognitif en parallèle. On a jusqu'à 5 niveaux. Le niveau 5 est l'équivalent en termes d'impact à une marche à 5-6 km/h, mais les deux premiers niveaux se font sans y penser.
Par contre, une fois que l'on arrête de pédaler, on sent bien que nos jambes ont travaillé, hein.
C'est bien ça l'objectif, c'est ça. Un peu, surtout si on n'a pas fait d'activité physique ou du vélo depuis un certain temps, ben ça fait chauffer les muscles. En même temps, c'est bon signe. Si les muscles travaillent, ça veut dire qu'ils consomment des calories, que la circulation sanguine est rétablie, donc c'est une bonne chose. D'ailleurs, on l'a testé dans une entreprise avec une dame qui avait une problématique de thrombose veineuse. Elle nous disait, elle revivait après avoir testé, quoi. Et effectivement, quand on est assis toute la journée, la circulation sanguine ne se fait plus puisqu'on ne bouge pas.
Alors, je le disais en introduction, votre pédalier est connecté. C'est la grande différence avec vos concurrents. Autrement dit, il y a une application à télécharger sur son téléphone, application qui suit notre activité comme celle que l'on a, par exemple, pour le jogging.
Exactement. L'objectif, c'est absolument de motiver, éviter le syndrome du vélo d'appartement qui va servir quelques mois après les bonnes résolutions du début d'année passée à étendre le linge, etc. Là, l'avantage, c'est que le coach applicatif va motiver les gens à l'usage, va leur dire « Ok, c'est bien, oui, hier, vous avez fait l'équivalent de 12 000 pas. Aujourd'hui, si on en faisait un peu plus, on a des challenges qui sont collaboratifs ou par niveau, c'est-à-dire que le premier qui est arrivé a gagné, mais d'autres, comme par exemple, faire la distance de la Terre à la Lune. L'idée, c'est d'arriver à motiver au quotidien les gens à bouger. On a des activités préprogrammées avec, par exemple, hier, on a mangé un croissant, on veut le brûler, on lance l'activité croissant. Et puis, à nous, les 1h30, 2h pour compenser notre gourmandise.
Vous avez mis combien de temps pour développer ce pédalier ?
Là, ça fait exactement aujourd'hui. L'entreprise a été créée en France il y a de ça 4 ans. L'idée était apparue il y a de ça pratiquement 5 ans. Et donc, aujourd'hui, on est fabriqué 100% en France. On a lancé la fabrication en mi-2019, et aujourd'hui, on a 45 partenaires industriels en France qui vont de la toute petite PME, TPE, 5 collaborateurs, au très grand groupe Hutchinson, par exemple, où c'est un international.
Qui sont vos premiers clients, principalement des télétravailleurs en manque d'activité physique ou plutôt des entreprises qui veulent faire bouger leurs salariés ?
Alors aujourd'hui, on a vraiment cette double typologie de clients qui sont intéressés. On a les très grands groupes qui ont une volonté d'améliorer l'engagement et le bien-être de leurs collaborateurs au travers d'une activité physique qui n'est pas contraignante. Et puis on a aussi des gens qui sont dans un appartement, qui n'ont pas de place et qui souhaitent à la fin de leur télétravail, de leur journée de télétravail, pouvoir bouger sans contrainte devant une série télévisée, en train de lire un livre. C'est-à-dire, comme il est portable, on va pouvoir le placer d'une pièce à une autre, parce qu'il pèse 9 kg, c'est-à-dire le poids d'un pack d'eau. Donc, on répond à ce double besoin du télétravailleur, mais aussi de la personne qui se dit bah, « on est en plein hiver, il fait 19h, il pleut, j'ai pas envie de bouger, bah, je peux bouger devant la télé ».
Et combien il coûte votre pédalier aujourd'hui ?
Aujourd'hui, on est à moins de 500 euros en prix public.
Bah écoutez, merci beaucoup Vincent Fourdrinier de nous avoir présenté Eveya et son pédalier connecté qui permet de faire de l'exercice tout en travaillant. Pédalier made in France, on l'a bien compris. Et pour se le procurer, une adresse, eveya.io. Excellente journée à vous.
Merci Julien, à vous aussi.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Il est 5h28, bienvenue à vous sur Europe 1 à suivre le journal de Christophe Lamarre où l'on ira en Pologne, le pays qui accueille le plus de réfugiés ukrainiens et de loin. Et puis, dans un quart d'heure, on va parler de ce nouveau dispositif baptisé Mon Psy qui voit le jour ce mardi.
Oui, il va permettre à tous les adultes et les enfants de plus de 3 ans de bénéficier de 8 consultations par an chez le psychologue, remboursé par l'assurance maladie, avec quelques conditions. Par exemple, le tarif de la consultation est plafonné à 40 euros pour la première séance, puis 30 euros pour les suivantes. Ce dispositif est loin de faire l'unanimité chez les psychologues. Nous verrons pourquoi avec le président honoraire de la Fédération française des psychologues et de psychologie.
Et puis juste après, la prescription culture.
Oui, on parle littérature avec Nicolas Caro et une histoire vraie aujourd'hui qui fait froid dans le dos, celle du tueur en série surnommé Le Grêlé. La journaliste Patricia Tourancho raconte l'enquête dans Le Grêlé. Le tueur était un flic.
J'en ai déjà la chair de poule.
Ah bah oui, c'est fait pour.
Anissa Haddadi, en revanche, on n'a pas la chair de poule à cause des températures. Il y a moins de gelée ce matin.
Oui, alors dans le sud, ils ont déjà la chair de poule un petit peu parce qu'en fait, on a une France coupée en deux. Donc dans le sud, il n'y a pas de nuages. Il y a un ciel très dégagé. Donc on a encore des gelées. Hein. 0 à Toulouse, moins 1 à Bordeaux et Lyon, moins 3 à Rodez, moins 5 pour Aurillac. Et vous le disiez, Julien, on a moins de gelée ce matin. Et là, ça concerne la moitié nord où les températures sont quand même très douces. On a moins 5 à Aurillac ce matin et on a 10 degrés à Dunkerque, 9 à Brest, 8 à Caen et Nantes, 6 degrés à Reims, 4 pour Besançon, 2 à Dijon. C'est très doux sous la moitié nord grâce aux nuages. Cet après-midi, 9 degrés pour Belfort, ça remonte du côté du thermomètre. 11 à Biarritz, 12 à Clermont-Ferrand, 14 à Lille, 16 à Paris et 18 à Montpellier pour la maximale. Alors dans le ciel, je vous le disais, France coupée en deux. Donc de la Gironde aux Alpes, le soleil donne toute la journée avec un peu de Mistral et de Tramontane au bord de la Méditerranée. Puis sur la moitié nord, bon, c'est chargé, c'est des averses, c'est du vent au bord de la Manche. Enfin, c'est la même journée qu'hier en pire, quoi.
Merci beaucoup Anissa Haddadi pour toutes ces informations. Bon réveil à tous à l'écoute d'Europe 1. Il est 5h30.
Europe 1.
Non, il n'y a pas de gros problème. La plupart des gens reçoivent une aide d'urgence. Certains doivent attendre un peu, mais dans l'ensemble, tous trouvent un point de chute sécurisé.
L'accueil des réfugiés ukrainiens continue, comme ici à Varsovie, la capitale polonaise, qui a vu sa population augmenter de près de 20% depuis le début de la guerre en Ukraine. Reportage dès le début de ce journal. Et les Occidentaux organisent la riposte après le massacre de Boutcha, attribué à l'armée russe. La France expulse 35 diplomates russes, l'Allemagne 40. L'Union européenne se prépare à annoncer un nouveau train de sanctions. Et puis Elon Musk met le paquet sur Twitter. Le patron de Tesla devient le premier actionnaire du réseau social.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
Et à 5h30, le journal, c'est avec Christophe Lamarre. Bonjour Christophe.
Bonjour Julien, bonjour à tous. L'actualité se déplace encore une fois en Ukraine. La guerre pourrait entrer dans une nouvelle phase selon le renseignement américain. Selon Washington, l'armée russe prépare une grande offensive dans le sud et l'est du pays. Changement de stratégie qui n'empêche pas les bombardements sur les régions libérées comme Kiev et ses environs. Le maire de la capitale demande d'ailleurs aux réfugiés d'attendre une semaine avant d'envisager un retour.
Et pourtant, plus d'un demi-million d'exilés ukrainiens seraient déjà rentrés au pays malgré la guerre, signe d'un inversement de tendance.
Mais oui, au total, plus de 4 millions de civils ont fui les combats. À elle seule, la Pologne en a accueilli plus de la moitié. La vague migratoire est-elle effectivement en train de refluer ? La capitale Varsovie a vu sa population augmenter brutalement de 17%, pratiquement du jour au lendemain. Mais depuis quelques jours, le nombre d'exilés diminue nettement. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1, William Molinier.
Dans le hall de la gare, le va-et-vient des voyageurs quotidiens a repris le dessus. Alex, 24 ans, attend son père devant le quai. Sa ville, dit-il, n'a pas changé de physionomie.
Non, il n'y a pas de gros problème. La plupart des gens reçoivent une aide d'urgence. Certains doivent attendre un peu, mais dans l'ensemble, tous trouvent un point de chute sécurisé.
À Varsovie, les réfugiés ukrainiens sont incités à privilégier la périphérie pour s'y installer. La vie y est moins chère, le travail plus facile à trouver. Dans certains secteurs économiques, la guerre a même eu l'effet inverse, comme l'a constaté Maria, elle travaille dans le bâtiment.
On accueillait déjà les travailleurs ukrainiens avec qui j'avais beaucoup d'échanges avant. Mais quand la guerre a commencé, j'ai perdu le contact parce qu'ils sont rentrés se battre.
Chaque jour, entre 200 et 800 réfugiés sont orientés depuis la gare de l'Est de Varsovie vers un centre d'accueil à moins de 100 mètres. À l'intérieur, de quoi se reposer, manger et occuper les enfants avec des jeux. Sous le regard de Slavomir, des dizaines de bénévoles orientent les familles.
Notre principal but est d'éviter l'engorgement à la sortie des bus et des terminaux de train. On gère les arrivées, c'est un lieu de transit.
Même si les flux de réfugiés se tarissent au fil des semaines, ce centre restera ouvert. Il aura vocation à gérer les flux de retour, cette fois-ci vers l'Ukraine. Varsovie, William Molinier, Europe 1.
Sur le front diplomatique à présent, Washington et Bruxelles coordonnent leurs réponses après les accusations de crimes de guerre formulées à l'encontre de Moscou.
Une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies ce soir avec une prise de parole du président ukrainien Zelensky. Le chef de la diplomatie américaine Anthony Blinken se rendra à la réunion de l'OTAN et du G7 demain et jeudi à Bruxelles. Il sera notamment question de l'embargo sur le pétrole et le gaz russe dont les Européens sont friands. L'Union européenne est d'accord pour stopper les importations de charbon mais doit encore discuter sur le reste. En attendant, Paris et Berlin annoncent l'expulsion de 75 diplomates russes.
5 heures passées de 33 minutes sur Europe 1. Le verdict est tombé dans le procès de l'inconnu de la Poste. Mamadou Diallo est acquitté au bénéfice du doute.
Les jurés de la cour d'assises de l'Ain ont délibéré pendant 5 heures avant de se prononcer pour l'acquittement de cet ambulancier. Pourtant, Mamadou Diallo était bien sur les lieux lors de la mort de Catherine Burgot, mais c'était après le meurtre. Et 10 ans plus tard, ce crime reste donc une énigme, Jean-Luc Boujon.
Même acquitté, Mamadou Diallo a eu du mal hier soir à sortir de sa prison de Bourg-en-Bresse. La faute à des complications administratives qui ont failli lui faire passer une nuit supplémentaire en détention, inenvisageable pour son avocate qui a multiplié les démarches. Finalement, vers 1h du matin, Mamadou Diallo sort libre, accueilli par sa famille.
C'est un soulagement. J'ai quand même de la peine pour la famille de la victime. Faut pas oublier qu'il y a quand même une femme qui est morte sauvagement. Mais depuis le début, je clamais mon innocence. Aujourd'hui, la justice m'a entendu, donc je les remercie pour ça.
Une victoire de la justice pour son avocate, maître Sylvie Noakovic.
C'est la victoire de la justice. Merci à ces jurés courageux. Ils ont le courage d'affronter une audience qui a été difficile. Et ce qui compte, c'est que justice soit rendue.
Mamadou Diallo a donc été acquitté au bénéfice du doute, mais aussi parce que l'ombre de Gérald Thomassin, l'ancien acteur toxicomane et violent, longtemps soupçonné dans ce dossier, avant de bénéficier d'un non-lieu et de disparaître, a plané en permanence sur les débats, à la grande déception des proches de la postière, explique leur avocate, maître Séverine Debourg.
Ils sont KO debout parce qu'ils s'attendaient absolument pas à ça. Mamadou Diallo ne les a pas convaincus de son innocence.
Le parquet a 10 jours pour faire appel, ce qui entraînerait un second procès. Bourg-en-Bresse, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
À Bobigny, le parquet ouvre une enquête pour violence volontaire en réunion après la mort d'un homme de 31 ans. Une vidéo montre la victime tentant de fuir ses agresseurs avant d'être mortellement renversée par un tramway. Le drame prend une tournure politique du fait de la confession juive du trentenaire, même si le caractère antisémite de l'agression n'est pas prouvé à ce stade.
Nous sommes à 5 jours du premier tour de la présidentielle et on a connu des ambiances plus sereines au sein de la Macronie.
Et la photo au sondage qui donne le président sortant et Marine Le Pen au coude à coude au premier tour. Emmanuel Macron sera dans le Finistère cet après-midi sur les terres du président de l'Assemblée Richard Ferrand. Le chef de l'État qui s'agace de plus en plus des chamailleries internes, Jacques Serret.
Oui, la confiance qui transparaissait dans l'entourage du candidat le mois dernier a progressivement laissé place au doute des interrogations qui aujourd'hui exacerbent les tensions en interne et le meeting de samedi n'a rien arrangé car depuis, c'est un peu la foire d'empoigne entre proches d'Emmanuel Macron. Et hors micro, certains se lâchent et règlent leur compte au point de critiquer jusqu'au discours prononcé il y a 3 jours par le président candidat. On se serait cru face à une carte de restaurant chinois, lâche un ministre important, décidément inspiré par la cuisine asiatique pour tourner en dérision l'abondance de mesures égrenées durant le meeting. Raviolis aux crevettes, raviolis aux légumes, rouleaux de printemps et nems au bœuf, il y en avait pour tout le monde, mais du coup c'était trop, on s'y perd. Un propos appuyé par un cadre de la campagne qui décrit l'ambiance au QG. On est dans une ZAD, tout est décidé au dernier moment. Et cela a le don d'agacer cet autre ministre. On ne sait plus quoi faire. Quand on se montre pour soutenir le candidat, on se voit reprocher de se faire pousser du col. Quand on est moins actif, on nous accuse d'être en vacances. Mais il faut croire que ces ressentiments sont inhérents à une campagne de président-candidat. Un marcheur issu des rangs de la droite se souvient, ça se passait exactement pareil chez Nicolas Sarkozy en 2012.
Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Jean-Luc Mélenchon a choisi Lille ce soir, meeting diffusé en simultané et par hologramme dans 11 autres villes.
C'est le réseau social prisé de Jean-Luc Mélenchon et de tous les autres politiques, mais aussi du monde de la communication en général. Twitter intéresse beaucoup le milliardaire Elon Musk.
Alors lui, c'est un homme d'affaires. Le patron de Tesla vient de s'offrir 9% du capital, près de 3 milliards d'euros d'investissement. Prise de participation qui en fait le premier actionnaire de Twitter. Mais pourquoi faire ? That's the question. Et on vous la pose, Nicolas Pineau. Vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis.
Oui, Elon Musk a pris tout le monde à contre-pied avec sa dernière folie à 3 milliards de dollars. Avec 80 millions d'abonnés sur son compte, les tweets du fondateur de Tesla sont connus pour faire grimper ou dégringoler le cours des crypto-monnaies. Et ces dernières semaines, Musk s'est montré très critique vis-à-vis du réseau social, à qui il reproche de vouloir museler la liberté d'expression, violence, désinformation ou théorie du complot. Twitter a durci les règles pour ses utilisateurs, ce qui n'est pas du tout du goût du milliardaire. Le 25 mars dernier, il avait même annoncé dans un tweet vouloir créer son propre réseau social, ce qui fait écho à un certain Donald Trump, toujours banni de la twittosphère. Elon Musk devient donc le premier actionnaire de Twitter avec 9,2% du capital. Pas encore assez pour prendre le contrôle de l'entreprise, mais suffisant pour se faire entendre. Et hier, à l'annonce de sa prise de participation, Elon Musk a d'ailleurs tweeté « Oh, salut, lol, mort de rire en anglais ». Vous le voyez, Elon Musk n'a pas fini de s'amuser.
Nicolas Pineau, correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Le football, pendant que Kylian Mbappé s'interroge sur son avenir au PSG, eh bien Karim Benzema lui envoie ce message ce matin dans l'équipe. L'attaquant madrilène affirme vouloir jouer avec lui au Real et promet une pluie de buts s'ils sont associés en attaque. Voilà, ça aussi c'est un message. On ne sait pas s'il répondra lol Mbappé.
Sur Twitter, pourquoi pas ?
Pourquoi pas ?
Merci beaucoup Christophe Lamar. Pour ce journal, on passe aux courses. Les pronostics du Quintet avec Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Julien, c'est à Saint-Cloud que va se courir ce Quintet, un handicap qui réunira 16 chevaux âgés de 4 à 8 ans sur la distance de 1600 mètres. Avec un favori spéculatif, le numéro 3, Jurir, qui certes va disputer son premier gros handicap, mais jugé sur l'ensemble de ses performances, force est de reconnaître qu'il a le bon profil pour réussir d'emblée à ce niveau. On lui opposera les numéros 1 Norwegian Sir, déjà lauréat de 2 quintés grâce aux bons soins mais aussi au savoir-faire de son entraîneur Cédric Boutin qui ne laisse jamais rien au hasard. 2 Invisible Spirit, présenté par Michael Delzangle, dont tous les pensionnaires sont dans une forme très avancée en ce début de saison. Et 4 Shielding, un Marseillais dont l'aptitude à Saint-Cloud est certaine, comme le prouve sa victoire sur ce tracé il y a 2 ans, mais aussi une 3e place obtenu en fin d'année dernière. Les numéros 8, Golden Obello, 7, Houghton, 11, Trobrace et 14, Jacoboy compléteront ma sélection. Mon pronostic, 3, As, 2, 4, 8, 7, 11 et 14.
Des pronostics à retrouver dès maintenant sur Europe1.fr. Merci beaucoup Thierry Léger.
Retentissement mondial, celui du producteur Harvey Weinstein.
Claude François qui est mort au milieu
de... C'est le premier jour de l'euro.
Et maintenant, écoutez Yuri Gagarin.
Europe 1. Le jour où les grands faits historiques racontaient à travers les archives d'Europe 1.
Il y a tout juste 114 ans, le 5 avril 1908, naissait celui que beaucoup considèrent comme le plus grand chef d'orchestre du XXe siècle, l'Autrichien Herbert von Karajan. Bonjour Lord d'Autriche.
Bonjour Julien, bonjour Omblin, bonjour à tous.
Karajan, longtemps chef de l'orchestre philharmonique de Berlin, a commencé à diriger alors qu'il n'avait même pas 20 ans.
Oui, et il y a un aspect de sa vie sur lequel il n'aimait pas revenir, c'est qu'il a adhéré au parti nazi lorsqu'Hitler arrive au pouvoir en 1933. Il dirige des concerts dans le Paris occupé en 41 et 42 à l'Opéra Garnier. Ce qui caractérise Karajan physiquement, c'est ce regard bleu glacial qui pouvait tétaniser, raconte sur Europe 1 sa femme, Eliette von Karajan, en 2008.
Cette espèce de froid. Je crois qu'il se préservait lui-même parce qu'il était un grand timide et il s'exprimait dans sa musique.
Karajan, en tout cas, subjugue les orchestres et le public.
Il a aussi la réputation, Lord, d'être un chef très autoritaire et exigeant.
Oui, par exemple, il détestait les chauves et il imposait que les membres dégarnis de son orchestre portent des perruques lors des concerts filmés. À la mort de Karajan à l'âge de 81 ans, le public se souvient de sa manière peu commode de travailler avec les musiciens.
Cette façon d'entraîner tout son orchestre, bon, il fallait absolument que les gens aillent dans son sens, mais tout le monde le suivait.
La réputation qu'il avait, c'est d'avoir des répétitions qui étaient tellement bonnes
qu'après, ils n'avaient presque plus besoin de faire de gestes en face de l'orchestre.
Karajan avait donné un entretien à Europe 1 assez long en 1988 dans un français parfait. Il racontait que ce n'était pas facile de travailler avec des orchestres français.
Avec les Français, ça marche très difficilement parce qu'ils sont tellement individualistes. Vous savez, faites ça. Mais non, je pense autre chose. C'est pour ça que je vous pose difficilement cette question.
L'individualisme des Français. Karajan, c'est aussi 900 disques et 115 millions d'exemplaires vendus de son vivant.
Et tout au long de sa vie, Karajan s'est bâti un empire.
Oui, dès les années 50, avec ses voitures de sport, son avion privé, son yacht et ses vacances à Saint-Tropez, Karajan fait entrer la musique classique dans le monde du show business. Il est le premier aussi à enregistrer un 33 tours. Récit en 1989 du correspondant d'Europe 1 à Vienne, Lucien Jordani.
Perfectionniste, toujours en avance sur son temps, c'est le premier à effectuer des enregistrements digitaux. Il met en scène ses propres films, crée ses sociétés, dont une des plus grandes usines de compact disques d'Europe.
Et quand on demandait à Karajan quel serait son plus grand rêve, il répondait d'être né 10 ans plus tard pour pouvoir suivre les progrès techniques dans le milieu du disque, du son et de l'informatique.
Merci beaucoup, Laure d'Autriche. Et à demain pour un nouveau jour où, dans un instant sur Europe 1, les séances chez un psychologue pris en charge par la Sécurité sociale.
Omblin Roche et Julien Pierce.
Votre matinale info sur Europe 1.
5h44 sur Europe 1, très bon réveil à tous. C'est le nouveau dispositif mis en place dès aujourd'hui par le gouvernement, des consultations chez le psychologue pris en charge par l'assurance maladie. Dispositif toutefois soumis à conditions. On en parle avec le président honoraire de la Fédération française des psychologues et de psychologie.
Bonjour Benoît Schneider.
Bonjour.
Vous êtes également professeur émérite en psychologie à l'Université de Lorraine. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1 pour parler de cette nouvelle plateforme baptisée Mon Psy. Alors dans un premier temps, Benoît Schneider, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que vous pouvez nous décrire ce nouveau dispositif ?
Depuis un certain nombre d'années, le gouvernement a mis en place un certain nombre d'expérimentations pour favoriser l'accès de différents publics à des prestations de psychologues, pour répondre à un certain nombre de besoins. Et fort de ces constats, des bilans, des analyses qui ont été faits, on est rentré dans un schéma de négociation qui vise à élargir, stabiliser et rendre plus intégré dans la durée ce type de réponse, rendre l'accès à des prises en charge dans le cadre de dispositifs actuels pour des troubles légers à modérés, mais qui permettent l'accès aux usagers, aux patients, d'avoir des réponses auprès d'un psychologue pour une certaine durée, qui fait peut-être question, mais en tout cas, c'est la voie d'entrée vers une prise en charge accessible à des publics, à des patients qui n'y avaient pas accès jusque-là.
Donc toutes les personnes, adultes et enfants de plus de 3 ans, peuvent bénéficier donc de 8 séances par an avec un psychologue,
oui.
Des séances remboursées par la Sécurité sociale et par la Mutuelle, c'est bien ça ?
C'est bien ça.
Le tarif est plafonné à 40 euros pour la première séance de bilan, puis 30 euros pour les suivantes. Est-ce que ça pose question, ce tarif ?
Oui, bien évidemment, ça pose question. Si la fédération au sein de laquelle j'œuvre s'est montrée réservée et n'a pas pleinement adhéré à ce dispositif, c'est en raison en particulier de ces tarifs. Hein. Pour autant, j'y reviendrai, on ne s'y est pas opposé. Bon, ce n'est pas un tarif satisfaisant, mais peut-être dans la durée, les choses pourront-elles évoluer.
Alors, et qu'on comprenne bien, si on consulte un psychologue dont la séance classique coûte 60 euros, on ne sera pas remboursé du tout. Seules les séances plafonnées à 40 ou 30 euros sont prises en charge, c'est bien ça ?
Oui, disons, en moyenne, les tarifs de psychologues libéraux sont de 50 à 55 euros. Hein, c'est sur une série d'enquêtes, c'est à peu près le tarif dont on dispose. Donc ces 8 séances sont gratuites, remboursées aux usagers, puisque contrairement aux expériences précédentes, ce n'est plus le psychologue qui fait l'avance, mais la personne qui consulte et qui est donc l'objet d'un remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie.
Est-ce qu'on peut soigner un patient en 8 séances par an ?
C'est une question marquée qui a suscité effectivement un gros débat dans la profession. C'est un des points de discussion important, essentiel certainement. C'est une limite indiscutable qui pose un certain nombre de problèmes, non pas seulement financiers, mais un certain nombre de problèmes déontologiques, éthiques, de prise en charge. Pour autant, les bilans qui ont été faits, l'examen d'un certain nombre de situations laissent penser que tout de même, beaucoup de patients pourront bénéficier d'une aide ponctuelle, limitée dans le temps, qu'elle peut apporter une aide, même si la durée n'est pas suffisante et même si aussi la question de la transition en fin de prise en charge pose effectivement problème.
Ce que vous dites, c'est important, Benoît Steller, c'est que le système n'est pas figé et que ce dispositif pourra évoluer. Il y a aussi un point qu'on aimerait aborder avec vous. Le patient devra présenter une lettre d'adressage rédigée par son médecin, médecin généraliste, médecin de famille, un gériatre ou un pédiatre.
Oui, la voie d'entrée essentielle sont les médecins généralistes parce que c'est ça en réalité qui crée du nouveau dans le dispositif. Bien évidemment, ça a posé question. Je crois qu'il faut rappeler qu'il y a eu une opposition forte à la notion de prescription médicale. Voilà, donc la distinction qui a été opérée apparaît parfois ténue, subtile, qui apparaît comme du vent pour certains, pas tout à fait pour nous, malgré tout, parce qu'on en a négocié les termes. C'est effectivement une lettre d'adressage. Le passage se fait par le médecin qui doit donner ce courrier d'adressage à la personne. La personne qui, à ce moment-là, choisit son psychologue dans la liste des psychologues qui auront sollicité et obtenu le conventionnement. Donc, il y a la liberté du patient. Le nombre de séances ne fait pas partie de l'indication et de l'adressage. C'est au psychologue de le définir. Et ensuite, un retour par compte rendu dans le cadre d'une collaboration avec le médecin. Oui, il y a un aspect qui établit une relation qui peut être perçue comme de dépendance par rapport au médecin. Mais par ailleurs, c'est aussi, et pour nous, je crois, l'occasion d'avoir un partenariat médecins libéraux et psychologues qui existe déjà pour de nombreux d'entre eux et qui vont permettre, parce qu'au-delà, on le souligne souvent en premier lieu, c'est la gratuité de la prestation, donc l'accès aux patients, mais c'est aussi par cette voie sûrement des usagers, des patients, des personnes qui sont en souffrance, qui n'iraient pas directement voir le psychologue, mais qui, par l'intermédiaire du médecin qu'il rencontre régulièrement, avec lequel ils ont établi une relation de confiance, médecin qui n'a ni le temps, ni toujours les moyens, parce que c'est pas strictement son champ de compétence, d'établir cette relation de soutien et d'aide, c'est l'occasion d'orienter vers le psychologue, de lui conduire à travers cette lettre d'adressage qui laisse une marge d'appréciation importante au psychologue. Nous avons considéré qu'il y avait là une avancée dans la relation, même si elle est à discuter à bien des égards et qu'elle peut susciter un débat légitime. Pour nous, ça nous a permis de considérer qu'il s'agissait malgré tout d'une avancée et de donner ce contexte d'une nécessité de poursuite de la négociation avec le ministère de la Santé.
Merci beaucoup, Benoît Schneider, d'avoir accepté de répondre à nos questions sur Europe 1. Vous êtes professeur émérite en psychologie à l'Université de Lorraine et président honoraire à la Fédération française des psychologues et de psychologie. Merci encore.
Merci.
Bonne journée.
Merci pour cette invitation. Bonne journée.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
Il est 6h10 sur Europe 1. Bienvenue à vous si vous venez de nous rejoindre. Le journal permanent, Alban Le Prince.
35 diplomates russes expulsés de France, une quarantaine d'Allemagne. Première réaction aux européennes après la découverte du massacre de Boutcha en Ukraine. Sujet principal aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'exprimera lors de cette réunion. L'Ukraine qui s'attend à une attaque massive des Russes. Le gouverneur de Lugansk à l'est du pays dit observer l'arrivée d'équipements, d'hommes et de carburant. Orpea, à nouveau dans la tourmente, environ 80 plaintes ont été déposées hier devant le parquet de Nanterre, selon l'avocate Sarah Saldman. Des plaintes notamment pour homicide involontaire ou encore violence par négligence visant le groupe de maisons de retraite privées. Et puis à 5 jours du premier tour de la présidentielle, nouveau sondage Opinion Way publié ce matin. Emmanuel Macron reste à 28% d'intention de vote, suivi de Marine Le Pen à 20%. Jean-Luc Mélenchon progresse à 15% d'intention.
On accueille à présent notre spécialiste littérature.
Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Ombline, bonjour Julien.
Nicolas, ce matin, une fois n'est pas coutume, ce n'est pas un roman que vous nous présentez, mais le livre d'une journaliste.
Oui, mais qui se lit comme un roman, sauf que malheureusement tout est vrai. Ça s'appelle Le Grêlé, le tueur était un flic au seuil, signé Patricia Touranchot. Elle a couvert pendant des années la traque de ce criminel que l'on surnommait Le Grêlé, faute d'avoir son nom. On le cherchait depuis 1986, c'est l'assassinat de la petite Cécile Bloch dans le 19e arrondissement de Paris, et pour d'autres victimes ensuite, et soudain le 37 septembre 2021, l'automne dernier, ça y est, il a été identifié, mais trop tard. Se sachant découvert, il s'est suicidé. Patricia Touranchot se souvient de ce jour, l'épilogue de plusieurs années d'enquête.
Quand intervient ce dénouement, en fait, de l'énigme d'un tiers de siècle le 30 septembre, moi je suis comme une dingue, je reçois un coup de fil, on me dit un type a été arrêté, c'est possiblement le grêlé, il faut attendre l'ADN ce soir, etc. Donc je prends des cafés, je grille plein de cigarettes, j'essaye de me calmer. Je me dis, attention, dans cette histoire du grêlé, il y a eu des tas de types de suspects au profil idéal, et ce n'était pas eux, donc tu te calmes.
Et puis donc, très vite, Nicolas, la piste est confirmée.
Oui, et là, Patricia Touranchou raconte dans le livre tous les messages, les coups de fil qu'elle reçoit de tous les protagonistes de l'affaire, des proches des victimes, des policiers, notamment l'émotion du chef de la brigade des costards, Bernard Pasqualini. On les appelait comme ça à la crime parce qu'ils portaient tous veste et cravate. Il avait dit déjà à Patricia Touranchou que sa hantise était de mourir un jour avec dans la tête l'image de la petite Cécile Bloch et du portrait robot du grêlé qu'il n'a pas pu identifier. Parce que c'est ça aussi ce qui est fou, c'est que dans cette affaire de 35 ans à chercher le coupable, on avait son portrait robot très ressemblant, grâce à un témoin et à l'arrogance du grêlé, Patricia Touranchou.
Ce qui est dingue, effectivement, c'est que quand même, il a passé presque une heure à faire le yo-yo dans l'ascenseur pour trouver sa proie. Et c'est comme ça que le frère aîné de la petite Cécile Bloch, qui prenait l'ascenseur pour aller faire ses études de biologie, pour aller à la fac, a passé du temps avec ce type et n'a réalisé bien évidemment qu'après que Luc Bloch s'est souvenu effectivement du visage de ce type et qu'il l'a dessiné.
Et finalement, il a été retrouvé. C'était un monsieur tout le monde ?
Exactement. François Vérov, qui vivait dans l'Hérault, hyper intégré, un ancien policier, ancien gendarme en plus. Patricia Touranchou raconte bien sûr toute l'enquête depuis les années 80, avec tous les témoignages, les PV, les fausses pistes, les doutes des enquêteurs, les découragements, et jusqu'à la fin donc, où elle a reconstitué, d'après les témoignages, la résolution et les deux derniers jours de François Vérov. L'horreur de la découverte de qui il a été pour ses proches, à lui aussi, c'est glaçant. Alors bien sûr, il faut se méfier avec ce type d'affaires et ce type de livres. Il ne faut pas tomber dans la fascination. C'est délicat, c'est atrocement vrai. Il y a des victimes, des proches. Eh bien, Patricia Touranchou réussit à la fois à rendre son récit addictif, mais aussi à garder la tête froide, les pieds sur terre et l'humanité nécessaire à ce genre d'enquête et de récit. C'est un livre incroyable.
Le grêlé, le tueur était un flic de Patricia Touranchou. Donc, merci beaucoup Nicolas Caro et on vous retrouve à partir de 14h dimanche dans La Voix et Livre avec Daniel Pénac comme invité cette semaine.
Europe Matin, Omblin Roche et Julien Pierce.
5h57 sur Europe 1, dans un instant la météo, le journal et une élection qui a bien du mal à passionner Julien.
Oui, vous l'avez sûrement remarqué dans vos discussions autour de vous, et c'est peut-être d'ailleurs votre cas, la campagne présidentielle laisse de marbre de nombreux Français à tel point que l'on pourrait battre dimanche un nouveau record d'abstention. Jusqu'à un tiers des électeurs pourraient bouder les urnes selon les derniers sondages, ce qui serait totalement inédit. La présidentielle, pourtant l'élection jusqu'ici préférée des Français, ne passionne plus. À qui la faute ? Est-ce purement conjoncturel avec la guerre en Ukraine qui écrase tout, ou est-on au contraire en train d'assister à une cassure de plus en plus béante dans la société ? Autant de questions que l'on va poser dans une dizaine de minutes au politologue Gilles Finkelstein, le directeur de la Fondation Jean Jaurès. Et puis juste après Omblin, votre partition.
Grâce à son sens aiguisé de l'observation et sa voix merveilleuse, elle raconte une histoire de l'Amérique. Tracy Chapman et la partition de son premier album dans 20 minutes.
Le retour d'Anissa Haddadi pour la météo avec au programme aujourd'hui deux salles, deux ambiances.
Ah, complètement, nous avons en fait au nord de la Loire un mardi gris, humide et venteux. Comme hier, ça souffle sur les côtes de la Manche avec des rafales jusqu'à 60 km/h. C'est toujours ce vent d'ouest qui souffle sur les côtes de la Manche. Attention, ce matin, prudence quand même. Nous avons des brouillards sur la Bretagne et le Cotentin, des nuages bas qui vont se dissiper au fil des heures, et puis des averses qui vont se concentrer sur les Hauts-de-France, le Grand Est et le Nivernais. Voilà pour la moitié nord. C'est pas très réjouissant, à part le fait que les températures vont remonter, c'est quand même assez tristouné pour un mois d'avril. Sur la moitié sud, là, c'est totalement différent. Nous avons encore quelques nuages qui débordent sur la Gironde, le nord de l'Auvergne et les Alpes du Nord. Et puis dans l'après-midi, les éclaircies sont de retour. Plus au sud, entre les Landes et la Côte d'Azur, on a un soleil radieux qui brille dans un ciel sans nuages. On a un petit peu de vent, Mistral et Tramontane au bord de la Méditerranée. Alors les températures, on a encore des gelées dans le sud avec ce ciel dégagé. Moins 5 à Aurillac, moins 3 à Brive et Tarbes, moins 2 à Pau, moins 1 à Bordeaux, 0 à Dax. Il fait bien plus doux au nord avec 5 degrés à Strasbourg, 7 à Amiens et 10 pour Dunkerque.
Merci beaucoup Anissa Haddadi, vous écoutez Europe 1 et vous avez bien raison. Soyez tous les bienvenus, nous sommes le mardi 5 avril. Combien d'entreprises résisteront à cette crise énergétique? La facture flambe et cela fragilise la moitié des TPE et PME. C'est le résultat d'une étude du patronat qu'Europe 1 vous révèle en exclusivité dès le début de ce journal. J-5 avant le premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon, troisième dans les sondages, va donner un coup d'accélérateur à sa campagne. Il sera ce soir en meeting à Lille et dans 11 autres villes en simultané. Et puis une main sur le volant et l'autre sur l'écran. 8 conducteurs sur 10 utilisent leur téléphone en voiture. Une tendance à la hausse et faute avouée par des automobilistes parisiens. La fin de ce journal.
Europe Matin. Omblin Roche et Julien Pierce.
Journal qui vous est présenté par Roman Oquet. Bonjour Roman.
Bonjour à tous. C'est la grande inquiétude des petits patrons. Comment maintenir son activité? En France, une entreprise sur cinq s'interroge face à la flambée des prix de l'énergie. C'est le résultat d'une étude du patronat, la CPME, qu'Europe 1 vous révèle en exclusivité ce matin. Une crise aggravée par la guerre en Ukraine. Élise Dangean, la majorité des entreprises s'adaptent désormais pour réduire la facture.
Et oui, 86% des petites et moyennes entreprises sont désormais obligées de baisser leurs marges. C'est la principale conséquence de cette flambée des prix de l'énergie. Pour l'heure, seule une PME sur cinq a fait le choix d'augmenter ses prix de vente. Parmi les plus impactées, on retrouve les très petites entreprises qui ont souscrit des contrats d'électricité au prix du marché, mais aussi les PME industrielles. 8% d'entre elles ont même dû baisser leur production. Et globalement, pour toutes, il a fallu s'adapter, comme l'a fait Nathalie Lalonde, boulangère pâtissière à Nancy, dont la facture d'électricité est passée de 1 800 € en moyenne à 2 400 €.
On essaye de gérer les cuissons différemment. Là, on ne fait plus de cuisson l'après-midi, c'est terminé. Et on ne peut plus allumer le four pour cuire 20 baguettes. Bon, bah, il n'y a pas de gain, hein. Ça limite juste un peu la casse. Hein.
S'adapter, c'est aussi limiter les déplacements. Dans les entreprises qui ont des véhicules de fonction, c'est le choix fait par 65% des dirigeants de PME, ce qui a selon eux un effet négatif sur leur chiffre d'affaires et sur leurs relations avec leurs clients.
Élise Dangean du service économie d'Europe 1.
Plus 29% en un an selon l'INSEE, c'est l'ampleur de la hausse des tarifs de l'énergie. Et parmi les entreprises en première ligne, il y a les producteurs d'œufs.
Oui, parce qu'ils ont besoin du gaz pour chauffer les bâtiments de leurs volailles, des poulets nourris aussi avec des graines venues d'Ukraine. La profession ne voit donc qu'une solution, augmenter les prix pour rester rentable. Une option privilégiée par exemple par ce producteur bio de Normandie qu'a rencontré Victor Pourchet pour Europe 1.
Là, ils sont 12 000 en tout.
Et autant de becs à nourrir pour François Roussel. Dans sa blouse de travail grise, il s'assure que les longues mangeoires qui traversent le bâtiment soient bien pleines. Une matière première de plus en plus chère depuis 2 mois.
Aujourd'hui, l'aliment a pris plus de 100 € à la tonne. C'est énorme. Je passe 1,5 tonne par jour aux poules. Donc ça fait déjà 150 € de plus que le lot précédent pour aucune rentabilité supplémentaire.
Juste à côté, François conditionne les œufs triés, rangés dans leur barquette, puis empilés. Tout ça bien aidé.
C'est une belle machine. En 2 heures par jour, je ramasse mes 11 000 œufs.
Des œufs qu'il aimerait vendre 21 centimes l'unité au lieu de 16 aujourd'hui, 30% plus cher. Une question de survie selon lui.
Si vraiment le lot tourne bien et ça pond comme il faut, ça va à peu près aller. Mais si le lot tourne mal, je travaille pour perdre de l'argent. Ça fait 2 ans que je me suis installé, faut que je rembourse sur 10 ans. Donc là, j'ai pas le choix, faut que ça marche.
Reste aussi la menace de la grippe aviaire. En cas de contamination, ces bêtes seraient abattues et les conséquences, dit-il, catastrophiques.
Le reportage de Victor Pourchet à Meilleray-sur-Seine en Normandie pour Europe 1. Et la grippe aviaire justement qui touche désormais la Corrèze avec un premier cas détecté hier. 10 millions de volailles ont déjà été abattues en France. C'est un record. Aux États-Unis, autre pays frappé de plein fouet par la maladie, le prix des œufs a déjà augmenté de 50% en un mois.
6 heures passées de bientôt 4 minutes sur Europe 1. Il se démultiplie pour espérer atteindre le second tour. Il, c'est Jean-Luc Mélenchon en meeting à Lille ce soir et dans 11 autres villes de France grâce à son hologramme.
Oui, la campagne se termine vendredi et l'insoumis aussi entre 15 et 16% des intentions de vote aux portes donc de la qualification pour le second tour. Alexis de la Fontaine, avec cette soirée de meeting, le candidat veut surtout donner un coup de jeune à sa campagne.
Oui, Jean-Luc Mélenchon le sait, s'il veut être au second tour, il doit mobiliser la jeunesse. Et pour cela, l'insoumis utilise à fond la carte des nouvelles technologies et du numérique. En janvier dernier, la nouveauté, c'était le meeting immersif avec son, image et odeur. Et aujourd'hui, l'hologramme de sa personne sera retransmis en 3 dimensions dans 11 villes en France. On a ciblé des villes moyennes et populaires comme Trappes, Le Havre ou Metz. Analyse un cadre insoumis avec une idée en tête, permettre à chaque Français de participer à un meeting à moins de 200 km de chez lui. Et pour faire venir les jeunes, Jean-Luc Mélenchon lance un filtre Instagram, Snapchat et TikTok avec un message.
Je me téléporte. Le 10 avril, il faut voter. Dans ce pays, c'est la monarchie présidentielle. Si vous voulez que ça change, faut voter.
Si vous ne votez pas, les autres décideront à votre place, ajoute l'insoumis. Son but, responsabiliser les électeurs à 5 jours du premier tour.
Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Téléphoner ou conduire, vous connaissez sûrement la suite. Cela pourrait être un slogan de la sécurité routière. 80% des conducteurs avouent utiliser leur téléphone au volant pour un appel, mettre de la musique ou programmer son GPS. Une tendance en hausse, plus 11% en un an, selon un baromètre de l'assureur AXA. Des automobilistes qui n'ont donc ni les mains ni les yeux sur le volant, sans se rendre compte du danger, comme ceux croisé par Solène Leroux à Paris.
Ahmed est très souvent au volant de sa fourgonnette noire pour le travail. Le trentenaire avoue utiliser son téléphone pour le GPS, répondre à des messages et même utiliser les réseaux sociaux. Et pour lui, c'est générationnel.
On est en 2022 quand même. Et les réseaux sociaux, ça marche bien. Donc je pense que c'est un phénomène de mode.
Comme lui, 24% des Français consultent leurs réseaux sociaux en voiture. La sanction, 3 points en moins sur le permis et 135 euros d'amende. De quoi dissuader Jocelyne, assise dans sa petite citadine, nez vissé sur son téléphone. Mais la retraitée le jure maintenant lorsqu'elle conduit, elle n'y touche plus.
J'ai été prise 2 fois. Ça coûte cher, ça m'a vaccinée. Mais à juste titre.
Même choix du côté d'Olivier, mais cette fois pour des raisons de sécurité.
Moi j'étais commercial pendant 35-40 ans de ma vie. J'étais particulièrement vigilant là-dessus. Parce qu'on se rend vite compte que dès qu'on n'est plus captif à sa route, on a vite fait de partir d'un côté ou de l'autre.
L'exo-commercial rejoint donc le club de ceux assurants, ne plus jamais décrocher. Et ils sont de moins en moins nombreux au fil des ans. En 5 ans, le nombre de conducteurs addicts au téléphone a augmenté de 14 points.
Le reportage de Solène Leroux pour Europe 1.
Merci beaucoup Romain Oquet pour ce journal.
6h06, les sports. Le journal des sports de Martin Lange et football Martin avec le début des quarts de finale de la Ligue des Champions ce soir.
Oui, sans club français hein, depuis l'élimination du PSG et de Lille au tour précédent. On suivra quand même 2 belles affiches ce soir. Manchester City reçoit l'Atlético Madrid d'Antoine Griezmann, revenu à son meilleur niveau, tandis que Liverpool se déplace à Lisbonne pour affronter Benfica. C'est jeudi qu'on retrouvera les clubs français, notamment Lyon, qui affronte West Ham en Europa League avec un atout de plus dans sa poche, le Brésilien Tété, buteur ce week-end pour sa première. Des débuts en fanfare qui ont plu à Claudio Cacciapa, entraîneur adjoint de l'OL, qui connaît très bien l'ailier brésilien. Écoutez.
C'est vraiment un bon gamin. Je l'ai connu à l'âge de 15 ans. Il a gardé la même mentalité, c'est-à-dire respectueux. C'est un joueur fin techniquement. Et aussi, on a vu qu'il a un très, très bon pied gauche.
West Ham-Lyon, c'est jeudi à 21h.
On passe au rugby, Martin, avec la sortie d'un film demain.
Oui, ça s'appelle Le Stade et ça retrace la formidable saison 2020-2021 du Stade Toulousain, vainqueur du top 14, mais aussi de la Coupe d'Europe, avec une guest star, évidemment, Antoine Dupont, le meilleur joueur du monde, séduit par le résultat du film.
Ça nous a beaucoup ému parce que c'est évidemment des souvenirs incroyables, mais on a été surpris par l'esthétisme du film. Finalement, c'est vraiment du cinéma, on dépasse le cadre du sport.
Antoine Dupont au micro de Colin Abgral hier lors de l'avant-première du film Le Stade qui sort demain pour une journée seulement.
Dans le reste de l'actualité, Martin.
Du cyclisme avec la victoire de Primoz Roglic hier lors de la première étape du Tour du Pays Basque, de la natation avec les débuts des championnats de France à Limoges aujourd'hui, et puis la retraite d'un champion olympique, Jean-Frédéric Chapuis Doré en ski cross à Sochi en 2014 devant 2 autres Français. S'en souvient, il tire sa révérence à 33 ans.
Merci beaucoup Martin, c'était le journal des sports de Martin Lange.
Vous restez avec nous dans un instant, une menace, celle d'une abstention record dimanche pour le premier tour de la présidentielle. On en parle dans une minute avec Gilles Finkelstein de la Fondation Jean Jaurès. A tout de suite.
5h, 6h30,
Europe Matin.
Excellente matinée à l'écoute d'Europe 1, il est 6h11. Votre invité Julien est politologue, directeur général de la Fondation Jean Jaurès.
Bonjour Gilles Finkelstein.
Bonjour Julien.
Merci beaucoup d'être en ligne avec nous ce matin, à 5 jours maintenant du premier tour de l'élection présidentielle. Une élection qui, on l'entend dans les reportages ou en discutant avec ses amis, ne passionne pas les foules, loin de là. À tel point qu'un record historique d'abstention pourrait être battu ce dimanche. Il est là l'enjeu principal de ce premier tour, Gilles Finkelstein, l'abstention.
Alors, c'est peut-être pas l'enjeu principal ou le seul enjeu, mais c'est un enjeu et le risque d'un record d'abstention existe. C'est pas quelque chose d'acquis. Je crois qu'il faut rester prudent parce qu'il y a beaucoup d'électeurs qui se décident au dernier moment sur leur vote, mais y compris sur le fait d'aller voter. Et donc, on peut avoir une progression dans les derniers jours. On avait connu ça en 2017. Mais le risque est réel qu'on batte le record. En tout cas, ce qui est à peu près certain, c'est qu'une élection présidentielle, depuis 1965, mobilise 80% des Français. Parfois un peu plus, parfois un peu moins. Et que ce score-là ne sera pas atteint. Après, la question de savoir si le record historique, qui est celui de 2002, où 28% des Français n'étaient pas allés voter, va être battu, ça, cette question-là reste encore une question ouverte.
Ouais, je précise que les derniers sondages évaluent le taux d'abstention dimanche aux alentours des 30%, soit 8 points de plus qu'à l'issue, vous l'avez rappelé, du premier tour en 2017. On a pourtant dit longtemps que la présidentielle était le scrutin qui mobilise les Français, celui qui les intéresse réellement. Tout ça, c'est fini ?
Alors, on a dit ça pour la raison que j'évoquais. Lorsque vous aviez à toutes les élections, quelles que soient les périodes, un peu plus ou un peu moins de 80%, c'était l'élection reine. Et puis, il y a eu, non pas pour l'élection présidentielle, mais pour l'ensemble des autres élections, un décrochage. Pour l'illustrer de manière très simple, toutes les élections qui se sont déroulées, des élections législatives de 2017 jusqu'aux élections régionales de 2021, il n'y a pas une seule de ces élections qui ont mobilisé la moitié des Français.
Ouais.
Donc on a d'un côté, à toutes les élections, une abstention qui galope, et on avait d'un autre côté une élection présidentielle qui mobilisait. Et la question qui se posait, et qui se pose d'une certaine manière encore, est de savoir si l'élection présidentielle de 2018 s'inscrira dans la droite ligne de l'une ou de l'autre de ces deux tendances contradictoires.
Alors il y a un élément de réponse éventuellement avec cet autre chiffre qui a retenu mon attention. Je l'ai trouvé dans une enquête Ipsos Soprasteria réalisée en partenariat avec la Fondation Jean Jaurès que vous dirigez. Ce chiffre, le voici, 74% des Français déclaraient fin mars s'intéresser à la campagne présidentielle, soit 6 points de moins que lors de la précédente enquête un mois plus tôt. Donc plus on approche du scrutin, de l'élection, moins elle passionne. C'est à ce point-là ?
Alors ça, c'est quelque chose de vraiment inédit et c'est un signe qui doit alerter. Non seulement il y a ces 74% seulement de Français qui disent s'y intéresser, ce qui veut dire d'ailleurs qu'il y a des Français qui disent s'intéresser à la campagne mais qui ne vont pas aller voter, mais surtout lorsque vous regardez par exemple les audiences des émissions de télévision, on est pratiquement qui consacré à la campagne, c'est pratiquement deux fois moins que lors de la précédente élection présidentielle. Lorsque vous regardez ce que sont les conversations des Français, l'IFOP fait ça avec Paris Match chaque mois depuis des décennies, vous avez à peine la moitié des Français qui disent avoir parlé dans le mois écoulé de la campagne présidentielle avec leur famille ou avec leurs amis. On était à 80% en 2017. Et donc, tous ces petits indices montrent que l'intérêt n'est pas là. Et l'intérêt n'est pas là parce que, lorsque vous interrogez les Français qui s'abstiennent sur les raisons pour lesquelles ils envisagent de s'abstenir, la première raison qu'ils invoquent, c'est le fait que il y a un sentiment de répétition. Ce sont les mêmes candidats avec les mêmes propositions et avec les mêmes discours.
Et puis, il y a aussi une forme de lassitude après deux ans de crise sanitaire à laquelle s'est rajoutée la guerre en Ukraine.
Alors, il y a ça aussi. C'est une des autres raisons qui est invoquée. Et puis, il y en a une troisième qui me paraît au moins aussi importante. C'est le sentiment qu'il n'y a pas d'enjeu. Le sentiment que les jeux sont faits, le sentiment qu'il n'y a pas de suspense. Et je crois que c'est une des leçons sans doute pour cette élection, c'est que même pour une élection présidentielle, pour qu'il y ait une très forte, une massive participation, il faut qu'apparaisse un enjeu. Un enjeu, c'est-à-dire une question à trancher, des candidats à départager, et là, pour beaucoup de Français, pour une majorité de Français, les jeux sont faits. Et c'est une grande différence par rapport à 2017, parce que en 2017, à 15 jours du premier tour, vous aviez 4 candidats qui étaient exactement ou à un point près au même score. Et donc, en 2017, un enjeu est apparu tardivement, et c'est ça qui a mobilisé les Français.
Et justement, est-ce que le président sortant, Emmanuel Macron, n'a pas lui aussi sa part de responsabilité dans cet désintérêt des Français concernant ce scrutin ? Je rappelle qu'il a fait le choix de se déclarer candidat au tout dernier moment et qu'il a jusqu'ici refusé de débattre avec les autres prétendants à l'Élysée.
Alors, il a évidemment aussi sa part de responsabilité, peut-être parce qu'il est parti très tard, peut-être aussi parce qu'il en fait trop peu. Alors, il y a cette question du débat. On peut comprendre les raisons pour lesquelles le président de la République ne souhaite pas débattre, parce que c'est pas la tradition de la Ve République. En revanche, le fait qu'il donne le sentiment de ne pas s'engager complètement dans la campagne, le fait que, par exemple, il soit le seul des candidats à ne pas participer aujourd'hui et demain au grand débat qu'organise France 2
Élysée 2022
est un signe de ouais. ça, et ça contribue un peu aussi à la démobilisation.
Dernière question, Gilles Finkelstein. Est-ce que l'abstention dimanche sera le révélateur d'une cassure de plus en plus profonde dans notre société ? Est-ce que c'est l'expression d'une partie de notre population qui ne se sent plus écoutée ni représentée, et qui s'est d'ailleurs manifestée il y a 3 ans avec des gilets jaunes ?
Encore une fois, soyons prudents, parce ouais. qu'il peut y avoir une progression dans les derniers jours. C'est le signe, en tout cas, qu'il y a une partie de la population qui ne s'intéresse pas, mais ça fait longtemps, qui ne s'intéresse pas à la politique, qui est défiant envers les responsables politiques, et surtout qui a le sentiment que la politique ne peut plus changer la vie, ne peut plus changer leur vie, et que donc il y a cette distance, parce que, eh bien, on a le sentiment que ça ne sert à rien. Brice Teinturier, le directeur d'Ipsos, avait publié il y a quelques années un livre dont le titre était « Plus rien à faire, plus rien à foutre ». Et donc, c'est un peu ce sentiment-là qu'une partie de la population ressent vis-à-vis de la politique.
Merci beaucoup, Gilles Finkelstein, directeur général de la Fondation Jean Jaurès, d'avoir répondu à nos questions ce matin, de nous avoir éclairés. Je vous souhaite une excellente journée.
Bonne journée.
Vous restez avec nous dans un instant, la partition de Tracy Chapman.
Vous saviez que Darty conçoit aussi des cuisines équipées ?
Ta cuisine est superbe.
Je sais.
Hyper photogénique.
Ouais, elle prend hyper bien la pose.
Jusqu'au 30 avril, on prolonge la pose chez Darty Concepteur Cuisine. Jusqu'à 100% de la pose offerte pour l'achat d'une cuisine. Prise de rendez-vous et conditions en magasin et sur cuisine.darty.com. Darty Concepteur Cuisine, des cuisines pensées pour cuisiner.
Bonjour, Paul.
Alors, peux-tu me dire quel véhicule professionnel je dois choisir en fonction de la fiscalité, des amortissements, de la valeur de reprise et de l'entretien ?
Le véhicule noir, Paul. Parce que le noir, ça va avec tout.
Sinon, venez rencontrer de vrais conseillers experts formés en diagnostic de parquet fiscalité. Pendant les instants Volkswagen Pro, du 4 au 30 avril, profitez de véhicules disponibles immédiatement dans la limite des stocks. Voir conditions sur Volkswagen.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
Allô ? Oui, entendu. Tout sera prêt pour la rentrée. On va faire ce qu'il faut.
L'entreprise de BTP de Marc doit rénover les routes autour des écoles de sa commune. Et pour ça, il a besoin d'une équipe en béton. Indeed peut l'aider à embaucher rapidement des profils de qualité.
J'ai besoin d'Indeed.
Les questions de présélection d'Indeed vous permettent d'affiner votre recherche de candidats et de consulter les candidatures qui correspondent le plus à votre recherche. Rendez-vous sur Indeed.com/offre et profitez de 100 euros offerts pour votre première offre sponsorisée. Offre soumise à condition.
Inexorable. Marcel Bellemare, un écrivain à succès, vit avec son épouse et sa fille. Jusqu'à l'arrivée de Gloria.
Je crois que je peux demander à Gloria de s'occuper de la petite.
J'aime beaucoup ce que vous faites.
Oh bah vous m'avez lu. D'où tu la connais exactement ? Qu'est-ce que tu sais d'elle ?
Inexorable. Benoît Poulvorde, Mélanie Doutet, dans un thriller implacable et vénéneux.
Je veux que tu quittes cette maison tout de suite.
Le 6 avril au cinéma, avec Europe 1.
Europe Matin.
Ombline Roche et Julien Pierce.
Les principaux titres de ce mardi avec Alban Le Prince.
Après s'être rendu dans la ville charnière de Boutcha hier, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, doit s'exprimer aujourd'hui devant le Conseil de sécurité de l'ONU, largement consacré à la découverte des atrocités commises sur place. Les Occidentaux comptent d'ailleurs décider de nouvelles sanctions contre la Russie. A noter que dès hier, la France a annoncé l'expulsion de 35 diplomates russes, une quarantaine pour l'Allemagne. Nous avons 3 ans pour nous reprendre en main et limiter le réchauffement climatique à 2 degrés supplémentaires par rapport à l'ère pré-industrielle. C'est le délai qu'il reste au monde pour agir, selon les experts du GIEC qui ont rendu le 3e volet de leur rapport sur le climat hier.
On conclut avec votre partition, Omblin, et avec la chanteuse Tracy Chapman, qui, en pleine émergence du rap, choisit la douceur des ballades folk pour exprimer son désarroi face aux inégalités sociales et raciales dans l'Amérique de la fin des années 80.
Oui, préférer la voix pacifiste plutôt que la rage, Julien. Le discours de cette jeune femme d'à peine 24 ans n'en est pas moins percutant, d'une voix lumineuse. La sienne, Tracy Chapman, aborde sur son premier album des sujets graves et profonds, les discriminations dans l'accès à l'emploi et à l'entrée des universités, un système judiciaire américain à deux vitesses ou encore les violences conjugales.
Cette volonté d'employer un ton calme et fédérateur est étroitement liée à la personnalité de Tracy Chapman.
Oui, une artiste timide et discrète, avec juste une guitare en bandoulière. Tracy Chapman grandit à Cleveland dans l'Ohio, abandonnée par son père, élevée par sa mère et sa sœur. Cette guitare lui a été offerte par le prêtre de sa paroisse qui avait organisé une collecte à l'université à Boston. Le soir, elle joue dans sa chambre. Le jour, elle étudie l'anthropologie.
Et puis arrive cet épisode, plutôt anodin, mais qui va changer la trajectoire de sa vie.
Tracy Chapman se retrouve coincée à Boston, sans un sou, lors du week-end de Thanksgiving. Une amie lui suggère de chanter dans la rue pour se faire un petit peu de monnaie. Elle s'exécute, interprète des standards blues. Les quelques pièces récoltées lui permettent d'offrir à elle et à son amie un repas de fête. C'est après cette soirée que Tracy Chapman va se décider à entrer dans le circuit folk local, à chanter dans des cafés, sur les campus, avec au bout de l'effort un contrat décroché avec la maison de disques Elektra. Don't you know we're talking about a
revolution sounds. Son premier album rencontre un succès plutôt confidentiel.
Et puis arrive ce nouvel épisode qui cette fois n'a rien d'anodin. Nous sommes le 11 juin 1988 au stade de Wembley à Londres. Tracy Chapman est invité à faire une apparition au concert de soutien à Nelson Mandela, alors emprisonné en Afrique du Sud. Il ne m'avait pas trouvé de place, dit-elle. J'attendais avec ma guitare acoustique. C'est au tour de Stevie Wonder. Sauf qu'au moment de monter sur scène, on se rend compte que le disque dur de son synthétiseur a été oublié. Stevie Wonder rebrousse chemin en larmes, en catastrophe. Les organisateurs demandent à Tracy Chapman de le remplacer devant un stade rempli et des millions de téléspectateurs. Elle entre dans l'histoire. Talking About a Revolution, ou la chronique sociale de l'Amérique, par Tracy Chapman, extrait de son premier album sorti le 5 avril 1988. Elle en vendra plus de 10 millions et sera encensée quelques mois plus tard aux Grammy Awards, les récompenses musicales américaines.
Disque qui a donc 34 ans. Merci beaucoup, Omblin, vous restez avec nous. La matinale se poursuit dans un instant avec Dimitri Pavlenko.